Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Cette semaine, d'ailleurs, nous prenons la direction de Bruxelles et du Conseil européen. Nous allons retrouver son président, Charles Michel. Bonjour, monsieur le président. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore qu'à 48 ans, vous avez été pendant 5 ans le Premier ministre de la Belgique pour le parti, on va dire, du centre ou des libéraux, si on préfère. 5 ans aussi à ce poste européen qui consiste à accorder les 27 de sommet en sommet. Et au dernier sommet, justement, revenons un petit peu sur ses conclusions. Vous avez insisté pour muscler le texte concernant Gaza. Les 27 ont appelé en effet à une pause humanitaire immédiate à Gaza et exhorté Israël à ne pas lancer d'opération terrestre à Rafah. Qu'est-ce que cela change pour vous sur le fond ?
C'est un message d'unité des 27 pays européens qui disent avec beaucoup de force que chaque vie civile compte, qu'il faut de l'accès humanitaire, qu'il faut une pause humanitaire et même un cessez-le-feu. Et c'est très important que l'on démontre que l'Union européenne n'a pas de double standard. D'une part, il y a une condamnation très très ferme de cette attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre. Et dans le même temps, on appelle Israël à respecter le droit international humanitaire. On appelle Israël à lutter contre le terrorisme. Mais dans le respect du comportement qui doit être celui d'un État démocratique.
D'ailleurs, il y a une première résolution de cesser le feu à l'ONU. Est-ce que vous avez des regrets sur le rôle joué par l'Union européenne dans ce conflit et peut-être d'ailleurs des pistes d'amélioration ?
Je pense qu'il y a des éléments positifs. On a vu que le haut représentant s'est démultiplié pour engager avec les pays arabes dans la région pour tenter d'éviter l'escalade régionale. On a vu que beaucoup d'États membres ont été extrêmement fermes et clairs sur l'importance de respecter le droit international, de respecter les vies civiles. On a été aussi très fiers des efforts mis en place, par exemple, par Chypre, avec l'appui d'autres États membres pour rendre possible un certain nombre de corridors humanitaires, y compris par la voie maritime. Et c'est vrai qu'on a eu besoin de plusieurs semaines pour réussir à dégager une position détaillée, unie, supportée par les 27 États membres, parce qu'on sait sur un sujet pareil, les 27 États membres peuvent avoir des relations avec Israël ou avec la Palestine qui sont inspirées par l'histoire, sont inspirées par un certain nombre de traditions. Et c'est cela qui nous a amené à avoir besoin d'un peu de temps avant d'être en mesure, le 21, on a pu le faire, d'exprimer une position unique et unie sur ce sujet.
Alors parlons de l'autre conflit à nos portes, si vous voulez bien. En Ukraine, on a l'impression effectivement qu'il s'intensifie avec les 27 qui ont réaffirmé leur engagement à acheter des armes et piocher même dans les actifs russes gelés. Enfin, les intérêts que rapportent ces actifs russes gelés dans les banques, on est autour de 3 milliards d'euros. Là, est-ce qu'on va encore cette fois-ci assez vite ?
On va vite et honnêtement, quand on regarde ce qui a été fait, on a pris le Kremlin par surprise, on a pris le reste du monde par surprise, parce que l'Union européenne, qui était traditionnellement vue comme un projet exclusivement économique, fondé sur des valeurs, est en train de devenir un projet qui a une ambition de puissance et de développement de capacités militaires. On a décidé, dès le début de cette guerre déclenchée par la Russie, de livrer des armes à l'Ukraine. Depuis lors, on a cessé d'augmenter les livraisons d'armes, à la fois en quantité et en qualité. On a décidé de charger nos industries européennes d'intensifier la production. Thierry Breton, le commissaire européen en charge, fait un travail remarquable avec l'industrie européenne de la défense sur ce sujet. Et puis, on a décidé le 21 et le 22 de faire un pas supplémentaire en s'attaquant aux revenus des avoirs russes gelés pour capter ces montants. On parle quand même de 4 milliards d'euros par an à peu près, afin de soutenir l'Ukraine, y compris avec de l'équipement militaire.
Charles Michel, en fait, on donne des armes à l'Ukraine, vous l'avez bien démontré, mais en même temps, on est en train de plafonner ces exportations agricoles, œufs, poulets, pour satisfaire nos agriculteurs qui se plaignent de déséquilibre des prix. C'est pas un peu hypocrite ?
Non, ce n'est pas hypocrite ce qu'on est en train de faire, c'est dialoguer, négocier avec l'Ukraine pour trouver une solution qui soit à la fois bonne pour les agriculteurs européens, mais qui permette aussi à l'Ukraine de continuer à exporter, d'ailleurs principalement vers des pays en dehors de l'Union européenne, et à utiliser d'ailleurs l'Union européenne pour permettre un certain nombre de transit, un certain nombre de produits agricoles. Par ailleurs, l'Ukraine a réussi à retrouver davantage de contrôle en mer Noire, ce qui permet à l'Ukraine aujourd'hui d'exporter à nouveau davantage via la mer Noire. Donc il y a une négociation. Il y a une dimension un peu technique, par exemple. On avait observé des hausses spectaculaires d'importations venues d'Ukraine dans le secteur de la volaille. Ça avait un impact en France, par exemple. Eh bien, on a négocié, on a discuté, elle prend Zelensky, pour tenter d'amener un peu de régulation sur ce sujet-là, pour défendre ce secteur-là sur le plan européen, mais en même temps pour permettre à l'Ukraine de pouvoir exporter principalement en dehors de l'Union européenne. Et le Conseil européen a demandé à la Commission et à nos ministres de l'Agriculture de travailler dans les jours qui viennent afin qu'on puisse trouver des accords pragmatiques avec l'Ukraine afin que, d'une part, on veille à ce qu'il n'y ait pas d'injustice au détriment de nos agriculteurs européens, mais d'un autre côté, à veiller à ce que l'Ukraine puisse continuer à disposer de revenus liés à sa ressource agricole.
Parce qu'on importe aussi pas mal de Russie, 4 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux, de produits dérivés en 2023. Ils sont exemptés du droit de douane. Alors, Bruxelles veut mettre finalement des droits de douane prohibitif. Est-ce que ça va changer quelque chose ?
Mais on voit bien que, d'une part, on a mis en place depuis 2 ans des sanctions lourdes contre la Russie pour tenter de rendre plus difficile pour la Russie sa capacité à financer cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Et la Commission européenne vient de faire une proposition afin que les États membres regardent cette possibilité de déterminer des droits de douane relativement élevés contre des produits agricoles russes. Alors, il y a plutôt du support parmi les États membres pour effectivement viser avec des droits de douane les produits agricoles russes qui viennent vers le sol européen. On ne parle pas de produits qui iraient vers des États en dehors de l'Union européenne, parce que l'on ne veut pas porter préjudice à la sécurité alimentaire dans le monde. Mais il est certain que l'on doit regarder avec précaution, afin que cette mesure-là n'ait pas des effets collatéraux négatifs pour la sécurité alimentaire dans le monde entier. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit continuer à être en dialogue étroit avec les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale, par exemple. Et c'est ce que nous faisons. On veut soutenir l'Ukraine massivement, nous le faisons, et on ne veut pas retirer d'une main ce que l'on donne de l'autre. C'est pour cela qu'il y a une négociation très rationnelle, très raisonnable avec les Ukrainiens sur le sujet. J'ai pu m'entretenir à plusieurs reprises, directement avec le président Zelensky, et je suis certain qu'au prochain Conseil européen qui aura lieu avant la fin du mois d'avril, on aura l'occasion d'un état des lieux et que des progrès auront été enregistrés dans l'intérêt des agriculteurs européens, mais aussi dans l'intérêt du financement de l'Ukraine.
Alors, cher Michel, si vous le voulez bien, regardons ce qui se passe du côté de la Russie. Vladimir Poutine a reconnu le lundi 25 mars au soir que l'attentat près de Moscou avait été commis par des islamistes radicaux, tout en continuant à sous-entendre un lien avec l'Ukraine. On fait le point tout de suite avec Thibaut Franchessé.
3 jours après l'attentat du Crocus City Hall et la revendication par l'État islamique, Vladimir Poutine a fini par reconnaître la piste du terrorisme islamiste ce lundi. Même s'il continue de penser que l'Ukraine n'est pas non plus totalement étrangère à cet attentat.
Nous savons que le crime a été commis par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Cette atrocité pourrait être liée à une série de tentatives de la part de ceux qui sont en guerre contre notre pays depuis 2014, les néo-nazis du régime de Kiev. Et comme on le sait tous, les nazis n'ont jamais hésité à utiliser les moyens les plus infâmes et inhumains pour parvenir à leur fin.
Des allégations fermement niées par Kiev et les pays occidentaux. Les 4 tireurs présumés qui sont apparus blessés lors de l'audience ont été incarcérés. Au moins l'un d'eux est originaire du Tadjikistan. Les services de sécurité turcs ont affirmé que les suspects avaient récemment fait un aller-retour en Turquie pour renouveler leur permis de résidence en Russie. 7 autres personnes présumées complices ont aussi été arrêtées.
Alors, cher Michel, on a vu des prisonniers au visage tumifié. On a aussi vu Vladimir Poutine qui voudrait que les Russes et les autres croient à une implication de l'Ukraine dans cet attentat. Ça vous dit quoi de ce régime ?
Ce que ça dit, c'est qu'une fois encore, on était habitué, on fait face à du mensonge, à la propagande, à la désinformation. Il y a d'abord une tragédie avec des victimes civiles. Et moi, je veux dire toute la solidarité vis-à-vis des familles, des victimes de cette attaque qui a eu lieu à Moscou. Mais on voit qu'il est apparemment impossible pour le Kremlin de se retenir. Et il est impossible au Kremlin de ne pas tomber dans la tentation du mensonge en tentant de faire de l'escalade rhétorique en accusant de manière saugrenue l'Ukraine. Ça montre qu'on a raison, comme Européens, avec nos nombreux partenaires dans le monde, de défendre la démocratie, la liberté, la souveraineté de l'Ukraine, puisqu'on voit qu'une fois encore, le Kremlin pousse le cynisme jusqu'à tenter d'instrumentaliser ces plus de 140 morts russes pour renforcer un sentiment anti-ukrainien en Russie.
Les observateurs s'attendent à voir Vladimir Poutine chercher une victoire facile ailleurs, une nouvelle vague de mobilisation peut-être. Est-ce que vous craignez un redoublement de violence en Ukraine ?
Mais c'est certain, c'est que depuis deux ans, on a vu systématiquement de l'escalade. Escalade verbale, escalade rhétorique, à rythme régulier des menaces de recours à l'arme nucléaire, ce qui est absolument irresponsable, des multiplications des attaques par des missiles, y compris ces derniers jours, on le voit beaucoup du côté ouest, à Odessa, à Lviv. Et donc, l'escalade, elle est du côté russe. Il y a un agresseur, c'est la Russie et c'est le Kremlin, et il y a un agressé. Et l'agressé, c'est le peuple ukrainien. Et l'agressé, ce sont tous ceux qui croient dans ces valeurs de démocratie incarnées par la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine qui a fait un choix libre, celui de se tourner vers l'Union européenne, d'arrimer son destin vers l'état de droit, vers la démocratie, vers la prospérité économique, est incarnée par ce projet européen fondé sur des élections libres et crédibles. Et quelque part, probablement, ce que les Ukrainiens payent, c'est ce choix-là, ce choix que l'on a vu à Maïdan, lorsqu'il y a eu cette décision souveraine des Ukrainiens de s'associer à l'Union européenne pour rapprocher le destin ukrainien du destin européen, du destin de l'Union européenne.
Alors la police russe a aussi émis un avis de recherche contre Kaya Kallas, la première ministre d'Estonie. La responsable figure sur une liste de 700 étrangers recherchés pour avoir, je cite, « insulté l'histoire ». On écoute Kaya Kallas, que nous avons interrogée au micro d'Armen Georgian.
Premièrement, en me mettant sur cette liste, la Russie essaye de m'empêcher de postuler, d'être candidate à des postes à haute responsabilité au sein de l'Union européenne. Parce que, vous savez, elle est trop va-t-en-guerre, trop opposée à la Russie. Et ainsi, cela raye mon nom de la liste des potentiels candidats. Et deuxièmement, ils veulent également signaler que l'Estonie n'est pas un vrai pays. Parce que si vous revenez à l'accusation en elle-même, elle se fonde sur des lois qui ont cours en Russie, mais qui ne s'appliquent pas en Estonie. Ils veulent montrer qu'ils sont toujours les maîtres de notre pays, comme c'était le cas pendant les 50 ans de l'occupation russe de l'Estonie.
Alors, cher Michel, est-ce que les Russes se sentent toujours maîtres des pays baltes ? Est-ce que d'ailleurs, comme le disent certains, selon vous, ils ne s'arrêteraient pas à l'Ukraine si jamais ils l'emportaient ?
Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas nous laisser intimider. Et cet exemple qui concerne Kaya Kallas est un exemple de plus sur une longue liste d'un cynisme absolu. Il y a de nouveau le Kremlin, la Russie, qui a décidé des comportements qui s'apparentent à des crimes de guerre. On l'a vu à Boutcha, on l'a vu à Borodianka. On voit les efforts systématiques pour détruire des installations civiles. Et la seule réponse, c'est la fermeté, la solidarité de l'Union européenne. Nous sommes 27 États membres. Un certain nombre d'États membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN et nous devons être absolument déterminés à ne pas laisser la Russie l'emporter, parce que laisser la Russie l'emporter, ça veut dire plus de fragilité, plus d'instabilité, plus d'insécurité. C'est un enjeu fondamental, central pour l'avenir de l'Union européenne, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Si on veut de la stabilité, de la sécurité pour nous dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, comme ceux avant nous ont pris des décisions pour garantir notre sécurité et notre prospérité. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas commettre une erreur historique. L'erreur historique serait de renoncer. L'erreur historique serait d'être intimidé ou impressionné.
C'est d'ailleurs l'Estonie, hein, vous le noterez, qui appelle avec la France à un grand emprunt de 100 milliards d'euros. On ne peut pas parler d'eurobond parce que c'est un terme un peu tabou, mais pour renforcer la défense européenne, l'Allemagne n'est pas favorable à ce stade. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il verra le jour ce grand emprunt et qu'on mettra effectivement les moyens qu'il faut dans la défense ?
Moi, j'ai une certitude, que ce soit à travers un grand emprunt européen ou par d'autres types de mécanismes de financement, nous sommes déterminés à changer le logiciel, à changer le paradigme. Pendant longtemps, l'Union européenne a été un projet économique, de prospérité, fondé sur des valeurs de réconciliation, d'état de droit, de démocratie, mais il manquait probablement ce pilier de sécurité et de défense. Eh bien, je pense que ce que Vladimir Poutine a en tout cas réussi, c'est à faire ouvrir les yeux des Européens qui maintenant mesurent bien que ça ne suffit pas d'être un projet de prospérité. C'est bien, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. On a besoin d'un pilier de sécurité et de défense. Les décisions prises au Conseil européen indiquent un changement radical d'orientation avec plus d'investissements dans la défense, d'une part, et plus de coopération et de coordination pour éviter la fragmentation. Aujourd'hui, on est trop fragmenté comme Européens, et donc on veut plus d'efficacité, plus de marchés conjoints, plus de commandes d'achats militaires groupées, et donner le signal à notre industrie de la défense partout en Europe, avec des contrats fixes, des contrats à moyen et à long terme, qu'on est là dans cette stratégie-là pour la durée, pas simplement pour les circonstances, mais pour la durée. Et encore une fois, ce qu'on fait en termes d'achat ensemble en européen de munitions est un premier exemple très tangible, avec des centaines de milliers de munitions qui ont d'ores et déjà été livrées dans ce cadre-là, et d'autres vont suivre, mais dans d'autres domaines, le domaine naval, le domaine terrestre, le domaine spatial, y compris la question digital. Dans tous ces domaines-là, on doit coopérer beaucoup plus, innover, investir pour que demain et après-demain, l'Union européenne ait plus d'impact, plus d'influence pour défendre nos intérêts grâce à nos capacités de défense et de sécurité. C'est une manière de montrer de la force vers l'extérieur.
Alors Charles Michel, vous avez décidé de rester à votre poste de président du Conseil 3 semaines après avoir annoncé que vous alliez être candidat aux élections européenne du 9 juin, une volte-face sous la pression d'ailleurs de vos pairs qui craignaient un vide institutionnel entre les élections européennes et la fin de l'année, hein, période un peu stratégique. Vous regrettez cet épisode ?
Non, il n'y a pas eu de pression de mes pairs en aucun cas. J'ai fait un choix en conscience. J'ai observé en dehors du Conseil européen une tentation de certains d'instrumentaliser ma candidature éventuelle au Parlement européen. Et ce qui compte pour moi, c'est la stabilité du Conseil. Et je pense qu'à un moment tel que celui-ci, on a besoin d'un ancrage. Et avec les 27 chefs d'État de gouvernement, on va continuer à travailler pour réussir la transition institutionnelle qui sera nécessaire après les élection européenne du mois de juin.
Beaucoup pronostiquent une hausse de l'extrême droite à l'occasion de ces européennes. Est-ce que vous la craignez également ? Est-ce que vous la comprenez surtout ?
Deux choses. D'abord, moi, je suis très, très prudent avec les sondages. Sur base des sondages, il n'y aurait pas eu le Brexit. Sur base des sondages, il n'y aurait pas eu l'élection de Donald Trump. C'est montré que les sondages souvent se trompent. Mais plus sérieusement, il y aura une campagne électorale qui démarre maintenant. Et moi, je suis assez optimiste que partout en Europe, ceux qui croient dans l'intégration européenne comme pilier pour plus de prospérité, pour plus de développement économique, pour plus de stabilité, vont faire entendre leur voix. Et je pense que la responsabilité des leaders européens, c'est de démontrer qu'il y a une valeur ajoutée, qu'il y a des résultats. Regardez comment c'est l'Europe avec les États membres qui ont réussi à nous faire sortir de la crise du Covid en achetant des vaccins ensemble. Regardez comment, sur le plan climatique, c'est l'Europe qui montre le chemin en cherchant cet équilibre entre, d'une part, faire reculer la menace climatique, mais le faire d'une manière telle que la transition fonctionne et ne laisse personne au bord du chemin. On est en train d'adapter, d'ajuster des règles qui concernent les agriculteurs, pour mieux prendre en compte la légitimité pour les agriculteurs d'avoir un revenu qui soit à la hauteur de leurs efforts. C'est un exemple. Vous voyez encore ce que l'on fait pour l'Ukraine, où nous sommes, je pense, visionnaires. Nous ne sommes pas intimidés par la Russie. Nous prenons des décisions. Ce projet européen, qu'il est facile de détrier, quand on regarde les résultats, on voit que c'est plutôt un élément qui donne de la stabilité, de la sécurité. Et il y a une volonté de travailler constamment pour faire en sorte que l'on a apprenne les leçons en essayant d'améliorer nos décisions pour l'avenir.
Merci Charles-Michel d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous d'avoir suivi Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien entendu sur nos antennes, l'information continue.